bienvenue à toutes celles et à tous ceux qui viennent de se joindre à nous à l'instant. Vous êtes sur Radio Orient, il est midi, le point de l'actualité avec vous, Nadia Pencher. À la une de cette édition, les négociations entre l'Iran et les États-Unis ont commencé ce matin à Genève, au centre des discussions, le nucléaire iranien. La République islamique assure qu'elle ne cherche pas à se procurer l'arme atomique. Nouvelle nuit de violence en Ukraine. La Russie a lancé près de 420 drones alors qu'émissaires américains et ukrainiens se retrouvent aujourd'hui en Suisse. Notre dossier du jour, les évasions massives du camp d'Al-Hol en Syrie. Des milliers de femmes et d'enfants se sont enfuis du plus grand camp de proches de Daesh du pays. Après le départ des forces démocratiques syriennes au cœur de cette faille sécuritaire, le conflit entre les autorités gouvernementales et les forces kurdes. Nous parlerons aussi de la visite du pape en Algérie qui commencera le 13 avril prochain. Bonjour à tous. Début des négociations entre l'Iran et les États-Unis à Genève. Elles porteront exclusivement sur le nucléaire. D'après la diplomatie iranienne, Téhéran a annoncé que le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique devrait participer aux discussions. Hier, le président iranien Massoud Pezeshkian a assuré que son pays ne cherchait pas à se procurer des armes nucléaires. Donald Trump, lui, en doute. Il affirme toutefois vouloir privilégier l'option diplomatique alors qu'un dispositif militaire américain massif reste déployé dans le Golfe. La Russie a lancé 420 drones et 39 missiles sur l'Ukraine cette nuit. D'après le président ukrainien Zelensky, infrastructures cruciales et immeubles résidentiels ont été touchés. Des dizaines de blessés sont à dénombrer. Des frappes qui interviennent alors qu'émissaires américains et ukrainiens se retrouvent aujourd'hui à Genève. La réunion doit préparer de prochaines discussions trilatérales avec Moscou. Pendant ce temps, la Russie affirme avoir remis à l'Ukraine les dépouilles d'un millier de soldats ukrainiens en échange des corps de 35 soldats russes. À Gaza, des tirs de bateaux israéliens au large des côtes ont fait plusieurs blessés civils près du camp d'Al-Shat. Un bombardement à Deir el-Balah, au centre de l'enclave, a tué une personne et blessé plusieurs autres. Les opérations localisées de l'armée israélienne continuent alors que doit se poursuivre la deuxième phase du plan de paix américain. Le premier ministre indien, Narendra Modi, a commencé hier sa visite de 2 jours en Israël. À Jérusalem, il a déclaré que son pays se tenait fermement aux côtés de l'État hébreu. Il a toutefois rappelé le soutien ferme de l'Inde à une paix durable pour tous les peuples de la région. Le Fonds monétaire international débloque 2,3 milliards de dollars pour l'Égypte après une nouvelle évaluation de ses réformes économiques. Cette aide conditionnée donc s'inscrit dans un programme destiné à soutenir l'économie face au risque de crise de la dette. En France, la loi sur l'aide à mourir a été adoptée à l'Assemblée hier. Les députés soutenant la réforme ont défendu un texte d'équilibre pour un droit encadré. Ses opposants ont jugé qu'il ne s'agissait pas d'une loi d'ultime recours. Le texte fait de l'auto-administration de la substance létale la règle et l'administration par un soignant l'exception si le patient n'est pas physiquement en mesure de le faire. Emmanuel Macron a salué des débats respectueux et un vote dans le sens d'un modèle humaniste. Rachida Dati a quitté hier soir son poste de ministre de la Culture à 3 semaines du premier tour des élections municipales. La candidate à la mairie de Paris a annoncé se concentrer sur cette échéance. Elle l'assure, Paris est pour moi l'engagement d'une vie. Elle occupait cette fonction rue de Valois depuis janvier 2024. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de votre écoute. On se retrouve tout de suite pour le dossier du jour. Vous êtes bien à l'écoute de Radio Orient. Place à présent au dossier du jour. À Damas, le ministère syrien de l'Intérieur confirme des évasions massives de proches de djihadistes du groupe Daesh depuis le camp d'Al-Hol dans le nord-est de la Syrie. Selon le porte-parole du ministère, Nourdine Al-Baba, les forces de sécurité syriennes ont découvert à leur arrivée des cas d'évasion collective liés à une ouverture du camp de façon aléatoire dans un contexte de chaos. Les précisions avec vous, Marc-Aurel Barrez.
Oui, le camp d'Al-Hol, qu'on présente souvent comme le plus grand camp de proches de djihadistes de Daesh dans la région, était jusque-là contrôlé par les forces démocratiques syriennes, les FDS, dominées par les Kurdes. Elles s'en sont retirées le 20 janvier et les forces syriennes ont pris le contrôle du site quelques heures plus tard. Damas affirme que ce retrait s'est fait sans coordination et sans avertissement préalable. Le ministère syrien de l'Intérieur évoque plus de 138 ouvertures le long du mur d'enceinte, long de 17 kilomètres, ce qui aurait facilité des évasions à travers des réseaux. Des milliers de femmes et d'enfants se seraient ainsi enfuis vers une destination inconnue. Les FDS, elles, contestent cette version. Elles affirment que leur retrait est lié à une attaque militaire visant le camp et elles accusent aussi les forces affiliées à Damas d'avoir participé à des sorties clandestines. Selon Damas, le camp abritait près de 24 000 personnes, majoritairement syriennes et irakiennes, ainsi qu'environ 6500 étrangers de 44 nationalités différentes. Les familles restantes ont été évacuées la semaine dernière vers un autre site du nord de la Syrie. Et sur le volet des prisons de djihadistes, l'armée américaine indique avoir achevé le transfert de plus de 5700 détenus de Syrie vers l'Irak.
Merci Marc-Aurel Barrez pour ces précisions. Les dates du premier déplacement du pape en Algérie sont désormais connues. La grande tournée africaine de Léon XIV s'ouvrira le 13 avril avec une première étape en Algérie jusqu'au 15 avril. Le souverain pontife se rendra ensuite au Cameroun, en Angola, puis en Guinée équatoriale. Des destinations variées qui illustrent la volonté de ce pape américain de s'adresser à un large public sur le continent. Cette visite en Algérie interviendra en outre quelques jours après le 30e anniversaire de l'assassinat des moines cisterciens de Tibhirine, enlevés en mars 1996 dans leur monastère de Notre-Dame de l'Atlas en pleine guerre civile. Le journaliste et écrivain Adlène Mehdi, correspondant à Alger pour Le Point, revient pour nous sur les thématiques que le Saint-Père devrait aborder lors de cette étape algérienne.
En Algérie, donc il y aura Alger, donc ça sera la visite plutôt, on va dire, protocolaire du chef d'État, la rencontre de deux chefs d'État, l'Algérien et le souverain pontife. À Annaba, ça sera une autre ambiance, on va dire. Ça sera plus un moment de recueillement, un moment de pensée spirituelle par rapport à Saint-Augustin, en visitant la basilique de Saint-Augustin à l'est du pays. Donc il y a toujours deux volets qui se mélangent judicieusement, c'est entre le politique et le spirituel. Et je pense qu'à Alger, les deux messages sont très attendus, parce que n'oublions pas aussi que la diplomatie du Vatican est très très puissante, c'est une ouverture, notre ouverture sur le monde, et que le message spirituel de dire que finalement nous faisons tous partie de la même communauté humaine, ça c'est quelque chose qui est entendu ici en Algérie, et surtout en ces temps de crispation identitaire à travers le monde.
Ce n'est pas un hasard si cette visite interviendra quelques jours après le 30e anniversaire de l'assassinat des moines cisterciens de Tibhirine, ces moines enlevés en mars 1996 dans leur monastère de Notre-Dame de l'Atlas, cela en pleine décennie noire. Lorsque l'on regarde les différents films sur ces moines de Tibhirine, on constate à quel point ces moines étaient attachés à la population. Il y avait une réelle fraternité également.
Plus que de la fraternité, un sens du sacrifice fraternel, dans le sens où ils refusaient même les conseils de leur hiérarchie pour leur dire attention, c'est dangereux de rester là-bas. Ils disaient on ne peut pas laisser nos frères musulmans sur place. Et donc ce témoignage de fraternité, de solidarité fait que ces moines, et pas seulement eux et les autres aussi personnels religieux chrétiens qui ont été assassinés par les GIA en Algérie, leur mémoire reste très très vive dans la société algérienne, en une sorte de gage de fraternité absolue, parce que là ils ont donné de leur vie. C'est le témoignage le plus fort pour un engagement spirituel pareil.
C'est la fin de cette édition. Merci d'y avoir prêté attention. Merci à Nice Gemri pour la réalisation. Excellente suite de programmes sur Radio Orient.